Salut à tous, ici Aurélie pour Radio Diwa, à l'écoute sur le 107.5 ou bien sur le site rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous offrir un voyage initiatique transcendantal. Je vous propose donc d'écouter Sylvain Nandi Wattman et son Surbahar, une forme de sitar, et on en parle après. Bonne écoute!
Thank you.
Ambiance ésotérique dans les studios de la radio. Salut Sylvain.
Salut Lily.
Alors dis-moi comment tu l'as vécu.
Comme ça, moi j'ai simplement essayé de retrouver mon atmosphère et c'est vrai que j'ai fait un peu abstraction de la moquette et des micros quoi.
En tout cas, moi j'ai assisté à ce que tu nous as offert. On t'entend souffler, respirer au rythme de ton instrument. À ce moment-là, vous ne faites qu'un, j'imagine.
C'est une musique qui, même lorsqu'elle est instrumentale, se rapproche de la voix. Et de la même manière qu'on respire quand on chante entre deux phrases, ça devient naturel de respirer entre deux phrases quand on joue. Et c'est aussi une musique qui doit être très... qui doit respirer avec soi, vibrer avec sa vibration. Et c'est sûrement pour ça que la respiration s'accorde avec les phrases musicales.
Donc musique transcendantale, expérimentale, les sons se distordent, rebondissent et s'étirent. Comment ça s'appelle ta musique?
Ça s'appelle Drupad. C'est le style classique le plus ancien qui est encore pratiqué en Inde.
Que tu connais bien d'ailleurs?
Oui. J'ai habité en Inde 7 ans pour étudier cette musique.
T'avais des bases musicales
J'avais un parcours de jeune musicien classique. J'ai fait de la composition, de la musicologie, de la guitare classique aussi. Et je croyais que j'allais être compositeur, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Mais d'ailleurs, je retrouve le côté créatif de la musique dans la musique indienne, puisqu'elle est improvisée. Et bien que ce soit une attitude très différente de celle de la musique contemporaine, puisque c'est un peu passé de la musique la plus récente à la plus ancienne, ou à ma connaissance, une des plus anciennes qui soit conservée aujourd'hui. Pour moi, c'est une continuité sans problème.
Donc, tu arrives en Inde avec ton bagage classique. Qui t'apprend cette musique?
Je l'ai étudié d'abord à Bénarès avec Rajesh Sen, qui est un chanteur. Pour cette raison que le chant est quelque chose de central dans cette musique. Comme je le disais, l'instrument, lorsqu'on joue un instrument, imite le chant. C'est un chant intérieur qui doit sortir. Donc j'ai commencé par le chant, bien que je sois plutôt instrumentiste. Et puis après, je suis allé continuer sur cet instrument à Bombay, New Bombay précisément, avec... J'ai pris quelques cours de sourbar avant à Bénarès avec Rabindra Goswami. Mais c'est un parcours qui n'est pas linéaire. J'ai parcouru l'Inde du Nord pour trouver un maître. J'ai frappé à la plupart des portes pour trouver la personne qui pourrait m'enseigner.
Très bel enseignement.
Ouais.
Et dis-moi, on va parler de l'instrument. Il a une taille imposante. Il est visiblement composé de bois noble, de moulures raffinées et a certes une forme atypique. Alors, tu peux nous en parler de cet instrument? Il vient d'où?
C'est un instrument qui s'appelle Surbahar et qui est de la famille du sitar, mais il est un peu plus grand et plus grave, de 4 notes. Il vient de la région du Bengale. Il n'est pas très ancien, puisqu'on le trouve au 19e siècle, mais la musique qu'on joue dessus est ancienne. C'est-à-dire que c'est un instrument qui se rapproche de l'instrument le plus ancien de l'Inde, qui s'appelle Rudra Veena, et qui là est un instrument multimillénaire. Et c'est une adaptation de cet instrument-là. Il a les mêmes notes et la musique que je pratique dessus est la musique ancienne, donc qui est elle aussi multimillénaire. On ne peut pas vraiment dater quelque chose puisqu'il n'y a pas de notation de partition ancienne. On sait qu'elle a été transmise oralement de maître à disciple pendant très très longtemps.
De maître à disciple.
Ouais.
Ouais. Parle-nous de cet enseignement, moi ça m'intrigue.
Eh bien, au départ, j'ai dû jouer des gammes pendant 6 mois. Alors ça m'a joyeusement irrité, puisque j'avais déjà joué pas mal de musique et joué d'assez nombreux kilomètres de gamme. Et je me demandais ce que ce monsieur voulait me dire en me faisant recommencer des gammes pendant des mois. Mais j'ai mangé mes gammes. Et puis après, il m'a montré un mode en m'enseignant une note après l'autre. C'est-à-dire qu'un jour, il me montrait une note. C'est-à-dire comment arrivé à cette note depuis deux autres notes, par divers moyens, deux, trois, quatre phrases, ça durait une heure et demie, deux heures. Et c'était absolument déconcertant, parce qu'il n'y avait aucune difficulté technique. Il y avait les cases de l'instrument, même au début on pouvait trouver, il me donnait des phrases très simples, mais j'étais incapable de les faire, je ne pouvais pas.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, il y a dans cette musique ce flux particulier, cette vitesse des notes, cette chose qui fait que l'enchaînement de ces notes est naturel. Et ça, j'étais incapable de le faire. Et je rejouais les notes qu'il me disait, il n'y a aucun problème, mais je voyais bien que ça n'était pas ça. Et lui me regardait avec sa grande gentillesse et me redisait la phrase. Et je réessayais, et ça pendant une heure et demie. Et quand tu vis ça, une semaine, deux semaines, trois semaines, des mois, tu finis par t'apercevoir que tu connais rien et que littéralement, le plus littéralement qu'il est possible, tu ne sais pas jouer trois notes. Et donc, c'est assez déconcertant quand on a fait de la musique avant. Et ce processus pour me montrer un seul mode a pris des mois parce qu'il faisait donc note à note. Et au bout de ces 4-5 mois, plus les mois de gamme qu'il y avait eu avant, j'ai traversé une période particulière où je me disais qu'effectivement, je ne savais pas jouer trois notes. Et puis, en pratiquant cette musique tous les jours, pendant un an après ça, j'ai eu, en jouant, l'image d'un océan, justement, à chaque fois que je jouais. Parce que peut-être que j'avais besoin d'une image pour me raccrocher à au moins un petit quelque chose, donc c'était une image intérieure. Et très progressivement, finalement, ce flot entre en soi. Et l'enseignement, ce qu'il a de très étrange, c'est qu'après ces mois où il m'a montré des notes, pas en jouant, mais en chantant, parce que justement la musique s'est chantée, même à travers l'instrument, et je ne suis pas censé imiter sa technique. La technique, je suis censé me débrouiller avec mon instrument. Par contre, je suis censé imiter la voix. La voix est l'instrument le plus proche de soi, du cœur peut-être. C'est ce qu'on utilise pour crier, pour s'exprimer. Et donc, lui chante quand il enseigne. Et moi, en face, je joue. Et donc, après ces mois-là, j'étais censé jouer. Et lui s'asseyait pendant une heure et demie et je jouais. Et il écoutait. Donc c'est là qu'on voit que ce qu'il donne, c'est sa présence. Quelle est la différence entre le moment où je joue tout seul et le moment où je joue quand il est là? C'est qu'il est là et ça change énormément de choses. C'est qu'il est là et je sais qu'il écoute, il dort pas, il fait pas autre chose, il est pas à regarder son téléphone. Et finalement, par cette présence, étrangement, par osmose, je trouve que ce qu'on est censé acquérir, c'est une certaine attitude par rapport à la musique. Et c'est important sa présence parce que c'est très indicible et on ne peut pas apprendre cette chose par des livres ni par rien d'autre qu'une présence. Et cette présence aide finalement à être dans le présent de la musique. Finalement, quand j'étais seul après, il s'en allait, on buvait le thé après. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne parlait pas de musique. On parlait du prix des tomates qui avait augmenté, du fait qu'il y avait plus ou moins de moustiques que la semaine d'avant, etc. Et la musique, c'est un truc dont on ne parle pas.
On le vit ou...
Absolument, ouais. C'est quelque chose qu'on vit et on n'est pas censé intellectualiser ça, c'est-à-dire qu'il faut retirer au maximum les barrières, les intermédiaires, les couches qu'il y a entre le son qui sort de l'instrument et puis ce qu'il y a de profond en soi. Et donc, on ne passe pas par la réflexion. Jouer, c'est arrêter de penser. C'est aussi simple que ça. Et simple, ça ne veut pas dire facile. Et donc, on est censé jouer une musique qui naît ici et maintenant. Parce qu'après avoir joué et rejoué et rejoué ces mêmes phrases, elles sont censées devenir automatiques comme des mots qu'un petit enfant apprend. Au début, il sait mal les prononcer. Puis au bout d'un moment, il va les mettre dans des phrases sans s'en rendre compte. Et il sera libre avec ces mots. Donc c'est ça, le processus, c'est très très clair, le processus d'enseignement, c'est qu'on apprend un langage comme un enfant apprend à parler, et qu'après avoir répété et travaillé ce langage, on est censé obtenir la liberté. Et c'est justement l'attitude contraire de celle que j'avais cru apprendre quand j'étais étudiant en composition. J'apprenais la musique contemporaine. Où là, on essaye de se défaire d'anciens modes de langage musicaux et d'en créer des nouveaux. De dire, ouais, c'est pas mon langage ce qu'un tel et un tel ont fait. Moi, je fais ce qui est mon langage à moi. Je le crée de toutes pièces et je fais du neuf. En Inde, c'est pas ça la liberté. C'est d'abord apprendre un langage qui est, c'est vrai, jugé être naturel, être un langage musical naturel, donc, ce qui n'est pas complètement faux, puisque la musique modale, c'est un langage musical qui était partagé dans le monde ancien, de l'Europe à l'Inde, en passant par le Moyen-Orient. Enfin, donc, pour revenir à la manière de voir la musique, on n'est pas censé changer le langage musical, la manière de bouger entre les notes qu'il y a dans un mode, du tout. On apprend un langage, et quand on sait, j'allais dire, parler dans cette langue, on peut peut-être acquérir la liberté et faire de la poésie, disons. Mais c'est très drôle parce que c'est ça l'attitude du monde ancien par rapport à un médium artistique. C'est que c'est un langage et qu'il faut l'apprendre d'une manière totale, à tous les niveaux. Et que la liberté, c'est pas briser ce langage, c'est à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs de cette musique ? Est-ce qu'il peut y avoir un dialogue ?
C'est une musique quand même de soliste, faut bien dire. Bon, elle est accompagnée en général par une tempura qui fait un bourdon constant donc derrière, et puis après la lappe que j'ai jouée, qui est cette première partie, et qui est un développement très progressif du lance en pulsation à quelque chose de plus rapide, il y a ensuite une deuxième partie qui est un peu plus courte et qui est accompagnée par la percussion. Donc cette complexification augmente d'un cran parce qu'on a un cycle rythmique joué par une percussion qui est dans le drupad, un instrument, un tambour double qui s'appelle Pakavaj. Mais mardi, il y aura un joueur de tabla. Je n'ai pas encore trouvé un joueur de Pakavaj dans le Diwa. Et donc, dans cette deuxième partie, il y a une mélodie fixe. Donc, elle n'est pas improvisée. Elle est donc mise sur un cycle rythmique de 12 temps, 5, 10 temps. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs cycles. Et ensuite, on improvise sur cette... sur cette mélodie.
D'accord.
Voilà, donc on joue avec un percussionniste avec qui il y a un dialogue. Et puis parfois, ça arrive qu'on joue à deux en complétant le discours de l'un par le discours de l'autre.
Oui. C'est pour ça que je parlais de dialogue,
ouais,
justement.
Juggle Bandy, ça s'appelle. Oui, ça aussi, ça arrive, quoique ce soit plus rare que le jeu soliste ou le chanteur soliste.
Et tu peux t'accompagner au chant, on l'a vu avec le petit jingle que tu nous as fait. Est-ce que c'est coutumier là-bas, en Inde, de chanter en même temps de jouer?
Non, pas du tout. Ah bah ça dépend, hein. La voix sort par la voix ou la voix sort par l'instrument.
Ah ouais, c'est l'un ou l'autre.
Ouais.
Tu pourrais nous faire un morceau de rock avec?
J'ai pas encore essayé.
Il nous reste encore une heure et demie pour essayer.
Ouais, mais là je crois pas que je vais aller jusque là.
J'aurais envie de revenir sur l'enseignement de cette musique. À partir de quand tu es libre ou tu te sens libre de jouer? Est-ce que c'est ton maître qui t'accorde ce droit, ou bien tu te sens suffisamment en confiance et tu te dis ça y est, c'est parti?
Traditionnellement, c'est lui en effet qui donne la permission de jouer en public. Maintenant, c'est quelque chose qui dépend des personnes, des circonstances. Oui, c'est vrai que traditionnellement, il prend vraiment en charge et il est responsable de l'évolution de son élève. On ne peut pas dire que c'est un professeur avec un élève, parce que ce n'est pas ce style de rapport humain. C'est autre chose. Alors c'est drôle, parce que comme j'ai appris en conservatoire avant, je peux comparer. Et c'est assez drôle de comparer le maître... La différence, si on peut dire, c'est que ce qu'il apporte en premier, c'est sa présence. Son enseignement, c'est pas des notes, c'est une manière d'être et de vivre sa musique. Cette musique-là, les notes qu'il y a à faire ne sont pas compliquées. Maintenant, trouver l'esprit de cette musique, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'exploration. Une remise en cause, dans mon cas, de ma perspective sur la musique, une remise en cause complète. Et puis, ça demande d'établir un certain état en soi qui permet de laisser libre cours à ce flux. Parce qu'on est plus témoin de ce flux que auteur. C'est pas moi la source de ces phrases. En tout cas, c'est clairement vu comme ça en Inde. Et lorsque l'on joue, s'il y a un souvenir quelconque de la vie quotidienne ou d'autres choses, ces choses, je dois les mettre de côté immédiatement. Et même le souvenir de moi n'a pas sa place. C'est une musique où je ne parle pas de ma petite histoire. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi, bien sûr, ce qu'il y a de particulier dans cette musique. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé.
Tu deviens vecteur, en fait.
Quand ça marche, absolument. Mm-hmm. Et rien d'autre. C'est ça qui est justement beau. Et c'est ça qui rend la chose partageable. Puisque si je suis vecteur d'un flux qui est censé me traverser et traverser chacun... Il peut être ressenti aussi par l'autre autant que par moi, puisque ce n'est pas mon histoire à moi dont je parle. Donc tout ça, c'est l'attitude générale. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément. Même en Inde, il y a des concerts ratés, parce qu'effectivement, ça demande un certain état d'être, de pouvoir arriver à voguer avec ces vagues, finalement, parce que ces phrases sont comme des vagues, les unes après les autres, avec ces respirations entre elles. Et la pratique quotidienne permet de retrouver cet état chaque jour et de s'y habituer finalement. Ce qui permet après, quand on est très habitué, comme c'est le cas de mon maître, dans n'importe quelle circonstance, d'acquérir cet état-là. Je l'ai vu et c'est très étonnant pour des gens comme nous. Je l'ai vu jouer chez lui dans son appartement à New Bombay, donc c'est une banlieue, où comme tant... Beaucoup de banlieues du monde, il y a des gens qui viennent d'un peu toute l'Inde, dans ce cas-ci, pour améliorer leurs conditions économiques et aller près de Bombay, qui est la capitale économique. Et donc, c'est une banlieue pleine de vie et de soif, de biens de consommation. Et lui, je l'ai vu donc, chez lui, dans cet appartement, avec les bruits extérieurs, avec les gamins qui jouent au karting, dans le parking qui est juste à côté de son appartement au rez-de-chaussée, sa femme qui épluche des légumes à côté, son fils qui lit le journal, l'autre qui, je sais pas, joue à l'ordinateur, et lui qui est au milieu de ça, d'une espèce de... Et puis l'ascenseur qui est juste à côté de sa porte, qui est à moitié ouverte parce qu'il fait trop chaud à Bombay, donc qu'on entend, parce qu'il fait une petite musique très bête et mécanique, l'ascenseur. Et lui qui est là, et qui joue cette espèce de musique qui est complètement hors du quotidien, et qui est absolument dedans, absolument pas gêné, alors que moi-même qui suis à côté, j'ai du mal à me concentrer. Et cet état d'être est tellement ancré chez lui que je l'ai vu jouer dans n'importe quelle circonstance, piqué par des moustiques, Benares, etc. Et imperturbable.
D'où son titre de maître, j'imagine.
Absolument.
Au bout de combien de temps il est devenu maître, ce monsieur ?
Mais c'est pas un titre qu'il se donne, et puis c'est pas un titre qui se donne ou que quelqu'un choisit de donner. Je pense qu'il mérite absolument d'être vu comme ça, et dans le milieu, petit milieu du Drupad, de cette musique, il est très très respecté en ce sens, bien que personne n'aille le voir pour apprendre, puisqu'il est tout à fait traditionnel et qu'il demande un apprentissage qui est très long et sans compromis du tout.
Tu donnes des cours sur Udi?
Oui, j'ai fait un atelier de chant indien tous les vendredis soirs qui s'adresse à tout le monde avec simplement l'envie de chanter. On y fait du Drupad. Je fais suivre donc les personnes sur des improvisations que je fais et puis d'autres chants qui sont eux non improvisés.
En tout cas, ces cours demandent une certaine discipline, mais pas que.
C'est pas l'enseignement indien à l'état pur, parce qu'en effet, lui, il demande pas mal de pratiques régulières. Non, c'est juste avec l'envie de chanter. Je fais aussi j'ai quelqu'un qui vient pour un cours de sitar chaque semaine depuis Lyon et qui veut là l'enseignement vraiment à l'indienne. Donc ça c'est très lent et je crois que c'est exceptionnel d'avoir des gens ici qui souhaitent apprendre de cette manière-là. C'est quelqu'un qui avait cherché ça. Mais bon, sinon pour tout un chacun, non, je ne demande pas 3 heures de pratique quotidienne pour faire l'atelier de chant. Ça se passe rue Élie Brossier, à côté de la place du Mazel. C'est actuellement le vendredi à 18h.
On va revenir sur l'instrument qui m'intrigue hein, quand même. Il y a une vingtaine de cordes.
Ouais.
Tu peux, pour les plus mélomanes, peut-être parler de l'instrument sous un aspect plus technique.
D'accord, il y a 4 cordes mélodiques. Et puis il y a 4 autres cordes qui servent à faire ce qu'on appelle ici le bourdon, qui donne cet arrière-plan qui contient la tonique et la quinte. Et puis il y a 13 cordes qui sont là pour la résonance sympathique, c'est-à-dire qu'on les accorde selon le mode qu'on va jouer. Là, ce mode s'appelait Bimpalasi, Raga Bimpalasi, Raga c'est le mode en Inde. Et donc on accorde ces 13 cordes sur les notes qu'on va jouer sur les cordes mélodiques. Et on a donc une résonance de chaque note grâce à ces cordes de tarab, on appelle tarab.
Ok. Et puis aussi l'aventure visiblement que ça t'aura fait vivre d'acquérir ce bel instrument qui est Surbahar. T'as fait le tour de l'Inde pour l'avoir, non ?
Non, mais c'est... Ceux qui sont allés en Inde savent que les histoires indiennes sont longues et compliquées. Disons que pour obtenir quelque chose, c'est difficile. Il y a eu une crise aujourd'hui dans la lutherie en Inde du Nord parce que, pour parler très vite, les luthiers en ville gagnent plus de sous à vendre des instruments de qualité moyenne à du blanc comme nous qui passent et qui disent « Tiens, je veux un sitar, vends-moi ça ». Et donc, ils préfèrent débiter du sitar moyen. Et du coup, faire un bon instrument, ce qui demande beaucoup de connaissances et de temps, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc, ces luthiers en ville reçoivent en fait ce qu'ils appellent les corps des instruments de sous-luthiers, disons, qui habitent dans des villages que personne ne connaît et qui font le travail du bois. Ensuite, les luthiers en ville rajoutent les chevalets, les clés, etc., pour rendre l'instrument jouable. Et donc, j'ai fini par savoir où ces instruments étaient faits. Je suis allé dans le village et j'ai dit à la personne qui les fait, donne-moi un bon instrument. Et là, il a vraiment essayé. Et comme lui, il a la maîtrise du bois, puisque c'est lui qui le donne, il m'a donné un bois superbe, ce que les luthiers en ville ont beaucoup, beaucoup de mal à avoir. Et du coup, j'ai réussi à avoir un instrument comme je le souhaitais.
T'en es ravi, visiblement.
Oui.
Je crois que tu joues la semaine prochaine, Sylvain.
Je joue au Loco Loco, rue de l'Armellerie, 6h30 le soir, le mardi 24 avril.
On essaiera d'être là.
Bienvenue. Toi, tu l'as entendu pour la première fois. Est-ce que tu peux dire, je sais pas, comment toi tu... Enfin, ce que ça fait.
Alors, c'est l'intervieweur interviewé. C'est vrai qu'au départ, moi en tout cas, j'ai été surprise par les sons que ça dégageait. Voilà, cette distorsion, le fait que ça rebondisse. Donc je m'attelle un peu comme ça à chaque son que j'entends. Et puis après, il y a une forme de laisser aller. Je regardais les nuages et cette musique et je pars, quoi. Je m'en vais avec le son. Après, je crois que c'est une aventure personnelle de recevoir cette musique et on ne la reçoit pas tous de la même façon. Je pense que ça peut me faire partir en transe, mais j'ai des facilités à partir en transe, donc je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui poser la question. Quel retour tu as d'habitude sur cette musique ?
Ça dépend, En fait, je pense qu'elle n'est pas du tout exotique. Pour moi, ce n'est pas une musique indienne lointaine, c'est une musique très proche. Et il se trouve qu'en France, il y a plein de gens qui la reçoivent comme quelque chose de très proche. Et c'est ça qui m'intéresse. Souvent, j'ai vu, à la fin d'un concert, quand les choses fonctionnent, que les gens sont assis, n'ont aucune agitation, et je les trouve... Je les sens bien là. Je les sens assis, comme on pourrait dire, assis en eux-mêmes. Mmh. Et c'est ça que cette musique peut faire. Finalement, c'est une musique qui, à mon sens, rapproche de ce qu'on pourrait appeler soi-même. Et effectivement, ça fait quitter toutes les images ou les idées de l'agitation quotidienne ou de tout ce qui est quotidien pour rapprocher peut-être du centre de soi. Et il y a des gens qui ressentent ça très bien et à qui on n'a pas besoin de l'expliquer. Ma manière de la vivre et la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est ça d'abord. C'est parce que c'est une pratique qui m'amène à un état vers lequel je voulais aller quotidiennement. Mais c'est aussi... si je voulais mettre une image, pour moi c'est comme un océan. C'est l'image qui me revient le plus souvent quand j'ai une image. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de fin, qui est infini. Je me sens dans un espace sans limite. Et il y a un grand plaisir d'être sans limite. Et ces phrases musicales sont comme des vagues dans cet océan. Les vagues, c'est des choses qui viennent... que rien ne peut arrêter, dont le mouvement est absolument libre. Même un rocher ne peut arrêter une vague. Et ensuite, il y a un ressac, puis toujours une autre vague. Et,
mouvement perpétuel.
Ouais, mais les vagues ne sont jamais tout à fait différentes, ni tout à fait pareilles. Et il y a un plaisir de cette liberté de mouvement. Ça peut rappeler aussi, parfois, je pense, un oiseau. Qui est dans le vent comme ça et qui ne sait pas quand le vent va le faire tourner. Et voilà, il y a une espèce de plaisir lié à cet état.
En tout cas, c'est vrai que là, t'as joué quoi, 30-35 minutes. Et moi, c'est au moment où tu t'arrêtes que j'avais envie justement de me lâcher. L'expérience est un peu courte, j'imagine, pour aller au bout du processus. Et que c'était à ce moment-là justement que je commençais à me lâcher, à me détendre. Voilà, au début, j'avais tendance à taper du pied. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je m'étais apaisée. Et là, j'entends la note finale et je me dis, bah non, ça devrait pas, quoi. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est une belle bribe de ce que ça peut... nous apporter. Merci Sylvain d'avoir partagé cette musique avec nous et de nous avoir fait découvrir ton Sourba Art.
Merci à toi.
Je te dis au mardi 24 à 18h30 au Loco Loco et à bientôt sur le site rdwa.fr et pour les accros du Transistor sur le 107.5. Bye.
Ciao. Ah.